David Copperfield, livre 1, chapitre 11. Je commence à vivre à mon compte, ce qui ne m'amuse guère. Je connais trop le monde maintenant pour m'étonner beaucoup de ce qui se passe, mais je suis surpris, même à présent, de la facilité avec laquelle j'ai été abandonnée à un âge si tendre. Il me semble extraordinaire que personne ne soit intervenu en faveur d'un enfant très intelligent, doué de grandes facultés d'observation, ardent, affectueux, délicat de corps et d'âme, mais personne n'intervint, et je me trouvais à 10 ans un petit manœuvre au service de messieurs Murdstone et Grimby. Le magasin de Murdstone et Grimby était situé à Blackfriars, au bord de la rivière. Les améliorations récentes ont changé les lieux, mais c'était dans ce temps-là la dernière maison d'une rue étroite qui descendait en serpentant jusqu'à la Tamise et que terminaient quelques marches d'où on montait sur les bateaux. C'était une vieille maison avec une petite cour qui aboutissait à la rivière quand la marée était haute et à la vase de la rivière quand la mer se retirait. Les rats y pullulaient. Les chambres, revêtues de boiseries décolorées par la fumée et la poussière depuis plus d'un siècle, les planchers et l'escalier à moitié détruits, les cris aigus et les luttes des vieux rats gris dans les caves, la moisissure et la saleté générale du lieu, tout cela est présent à mon esprit comme si je l'avais vu hier. Je le vois encore devant moi comme à l'heure fatale où j'y arrivais pour la première fois, ma petite main tremblante dans celle de M. Quignon. Les affaires de Murdstone et Grimby embrassaient des branches de négoces très diverses, mais le commerce des vins et des liqueurs, avec certaines compagnies de bateaux à vapeur, en était une partie importante. J'oublie quel voyage faisaient ces vaisseaux, mais il me semble qu'il y avait des paquebots qui allaient aux Indes orientales et aux Indes occidentales. Je sais qu'une des conséquences de ce commerce était une quantité de bouteilles vides et qu'on employait un certain nombre d'hommes et d'enfants à les examiner, à les mettre de côté, celles qui étaient fêlées, et à rincer et laver les autres. Quand les bouteilles vides manquaient, il y avait des étiquettes à mettre aux bouteilles pleines, des bouchons à couper, à cacheter, des caisses à remplir de bouteilles. C'était l'ouvrage qui m'était destiné. Je devais faire partie des enfants employés à cet office. Nous étions 3 ou 4 en me comptant. On m'avait établi dans un coin du magasin et M. Quignon pouvait me voir par la fenêtre située au-dessus de son bureau en se tenant sur un des barreaux de son tabouret. C'est là que le premier jour où je devais commencer la vie pour mon propre compte, sous de si favorables auspices, qu'on fit venir l'aîné de mes compagnons pour me montrer ce que j'aurais à faire. Il s'appelait Milk Walker. Il portait un tablier déchiré et un bonnet de papier. Il m'apprit que son père était batelier et qu'il faisait tous les ans partie de la procession du Lord Mayor avec un chapeau de velours noir sur la tête. Il m'annonça aussi que nous avions pour camarade un jeune homme qu'il appelait du nom extraordinaire de « Fécule de pommes de terre ». Je découvris bientôt que ce n'était pas le vrai nom de cet être intéressant, mais qu'il lui avait été donné dans le magasin à cause de la ressemblance de son teint avec celui d'une pomme de terre. Son père était porteur d'eau. Il joignait à cette profession la distinction d'être pompier de l'un des grands théâtres où la petite sœur de Fécule représentait les nains dans les pantomimes. Les paroles ne peuvent rendre la secrète angoisse de mon âme en voyant la société dans laquelle je venais de tomber quand je comparais les compagnons de ma vie journalière avec ceux de mon heureuse enfance, sans parler de Steerforth, de Traddles et de mes autres camarades de pension. Rien ne peut exprimer ce que j'éprouvais en voyant étouffer dans leurs germes toutes mes espérances de devenir un jour un homme instruit et distingué. Le sentiment de mon abandon, la honte de ma situation, le désespoir de penser que tout ce que j'avais appris et retenu, tout ce qui avait excité mon ambition et mon intelligence, s'effacerait peu à peu de ma mémoire. Toutes ces souffrances ne peuvent se décrire. Chaque fois que je me trouvais seule ce jour-là, je mêlais mes larmes avec l'eau dans laquelle je lavais mes bouteilles. Et je sanglotais comme s'il y avait aussi un défaut dans ma poitrine et que je fusse en danger d'éclater comme une bouteille fêlée. La grande horloge du magasin marquait 12h30 et tout le monde se préparait à aller dîner quand M. Quignon frappa à la fenêtre de son bureau et me fit signe de venir lui parler. J'entrai et je me trouvai en face d'un homme d'un âge mûr, un peu gros, en redingote brune et en pantalon noir, sans plus de cheveux sur la tête, qui était énorme et présentait une surface polie, qu'il n'y en a sur un œuf. Il tourna vers moi un visage rebondi. Ses habits étaient râpés, mais le col de sa chemise était imposant. Il portait une canne ornée de deux glands fanés et un lorgnon pendait en dehors de son paletot. Mais je découvris plus tard que c'était un ornement, car il s'en servait très rarement et ne voyait plus rien quand il l'avait devant les yeux. « Le voilà !» dit M. Quignon en me montrant. « C'est là !» dit l'étranger avec un certain ton de condescendance et un certain air impossible à décrire, mais qui voulait être très distingué et qui me fit une grande impression. « C'est là, monsieur Copperfield ? J'espère que vous êtes en bonne santé, monsieur. » Je répondis que je me portais très bien et que j'espérais qu'il était de même. Dieu sait que j'étais mal à mon aise, mais il n'était pas dans ma nature de me plaindre beaucoup dans ce temps-là. Je me bornais donc à dire que j'étais très bien et que j'espérais qu'il était de même. « Je suis, grâce au ciel, un peu mieux, » dit l'étranger. « J'ai reçu une lettre de M. Murdstone dans laquelle il me dit qu'il désirerait que je puisse vous recevoir dans un appartement situé sur le derrière de ma maison et qui est pour le moment inoccupé, qui est à louer, en un mot, comme en un mot, » dit l'étranger avec un sourire de confiance amicale, « comme chambre à coucher, le jeune commençant auquel j'ai le plaisir de... » Ici, l'étranger fit un geste de la main et rentra son menton dans le col de sa chemise. « C'est M. Micawber, » me dit M. Quignon. « Oui, » dit l'étranger, « c'est mon nom. »« M. Murdstone, » dit M. Quignon, « connaît M. Micawber. Il nous transmet des commandes quand il en reçoit. M. Murdstone lui a écrit à propos d'un logement pour vous, et il vous recevra chez lui. » « Mon adresse, » dit M. Micawber, « est Windsor Terrace, route de la Cité. Je... En un mot, » dit M. Micawber, avec le même air élégant et un nouvel élan de confiance, « c'est là que je demeure. » Je le saluai. « Dans la crainte, » dit M. Micawber, « que vos pérégrinations dans cette métropole n'eussent pas encore été bien étendues, et que vous puissiez avoir quelques difficultés à pénétrer les dédales de la moderne Babylone dans la direction de la route de la Cité. En un mot, » dit Micawber avec un élan de confiance, « de peur que vous ne vinssiez à vous perdre, je serais très heureux de venir vous chercher ce soir pour vous montrer le chemin le plus court. » Je le remerciais de tout mon cœur de la peine qu'il voulait bien prendre pour moi. « À quelle heure ?» dit M. Micawber. « Pourrais-je... » « Vers 8h, » dit M. Quignon. « Je serai ici vers 8h, » dit M. Micawber. « Monsieur Quignon, j'ai l'honneur de vous souhaiter le bonjour. Je ne veux pas vous déranger plus longtemps. » Il mit son chapeau et sortit, sa canne sous le bras, d'un pas majestueux, en fredonnant un air dès qu'il fut hors du magasin. M. Quignon m'engagea alors solennellement au service de Murdstone et Grimby pour tout faire dans le magasin avec un salaire de 6 shillings par semaine, je crois. Je ne suis pas sûre si c'était 6 ou 7 shillings. Je suis portée à croire, d'après mon incertitude sur le sujet, que ce fut 6 shillings d'abord et 7 ensuite. Il me paya une semaine d'avance, de sa poche, je crois. Sur quoi je donnai 6 pence à Fécule pour porter ma malle le soir à Windsor Terrace. Quelque petite qu'elle fût, je n'avais pas la force de la soulever. Je dépensai encore 6 pence pour mon dîner, qui consista en un pâté de veau et une gorgée d'eau bue à la pompe voisine puis j'employais l'heure accordée pour le repas à me promener dans les rues. Le soir, à l'heure fixée, M. Micawber reparut. Je me lavais les mains et la figure pour faire honneur à l'élégance de ses manières, et nous prîmes ensemble le chemin de notre demeure, puisque c'est ainsi que je dois l'appeler maintenant, je suppose. M. Micawber prit soin en route de me faire remarquer le nom des rues et la façade des bâtiments, afin que je puisse retrouver mon chemin le lendemain matin. Arrivé à Windsor Terrace, dans une maison d'apparence mesquine, comme son maître, mais qui avait, comme lui, de prétentions à l'élégance, il me présenta à Mistress Micawber, qui était pâle et maigre. Elle n'était plus jeune depuis longtemps. Je la trouvai assise dans la salle à manger. Le premier étage n'était pas meublé et on tenait les stores baissés pour faire illusion aux voisins, en train d'allaiter un enfant. Cette petite créature avait un frère jumeau. Je puis dire que pendant tous mes rapports avec la famille, il ne m'est presque jamais arrivé de voir les deux jumeaux hors des bras de Mistress Micawber en même temps. L'un des deux avait toujours quelques prétentions au lait de sa mère. Il y avait deux autres enfants, M. Micawber, fils, âgé de 4 ans à peu près, et Miss Micawber, qui avait environ 3 ans. Une jeune personne très brune, qui avait l'habitude de renifler et qui servait la famille, complétait l'établissement. Elle m'informa, au bout d'une demi-heure, qu'elle était orpheline et qu'elle avait été élevée à l'hôpital de Saint-Luc dans les environs. Ma chambre était située sur le derrière, à l'étage supérieur de la maison. Elle était petite, tapissée d'un papier qui représentait une série de pains à cacheter bleus et aussi peu meublée que possible. « Je n'aurais jamais cru, » dit Mistress Micawber, en s'asseyant pour reprendre haleine, après être montée, son enfant dans les bras, pour me montrer ma chambre. « Je n'aurais jamais cru, avant mon mariage, quand je vivais avec papa et maman, que je serais obligée un jour de louer des appartements chez moi. » Mais M. Micawber se trouve dans des circonstances difficiles et toute autre considération doit céder à celle-là. « Oui, madame, » répondis-je. « Les embarras de M. Micawber l'accablent pour le moment, » dit Mistress Micawber, « et je ne sais pas s'il lui sera possible de s'en tirer. Quand je vivais chez papa et maman, je ne savais seulement pas ce que veut dire le mot « d'embarras », dans le sens que j'y attache maintenant. » Mais experientia nous éclaire, comme disait souvent papa. Je ne puis savoir au juste si elle me dit que M. Micawber avait été officier dans les troupes de marine ou si je l'avais inventé. Je sais seulement que je suis convaincue, à l'heure qu'il est, sans en être bien sûre, qu'il avait servi jadis dans la marine. Il était pour le moment courtier au service de diverses maisons. Mais il y gagnait peu de choses, peut-être rien, j'en ai peur. Si les créanciers de M. Micawber ne veulent pas lui donner du temps, continua Mistress Micawber, ils en subiront les conséquences, et plus tôt les choses finiront, mieux cela vaudra. On ne peut tirer du sang d'une pierre, et je les défie de trouver de l'argent chez M. Micawber pour le moment, sans parler des frais que leur coûteront les poursuites judiciaires. Je n'ai jamais pu comprendre si mon indépendance prématurée faisait illusion à Mistress Micawber sur la maturité de mon âge ou si elle n'était pas plutôt aussi remplie de son sujet qu'elle en eût parlé aux jumeaux, faute de trouver personne autre sous la main. Mais le sujet de cette première conversation continua d'être le sujet de toutes nos conversations pendant tout le temps que je la vis. Pauvre Mistress Micawber, elle disait qu'elle avait essayé de tout pour se créer des ressources, et je n'en doute pas. Il y avait sur la porte de la rue une grande plaque de métal sur laquelle étaient gravés ces mots « Pension de jeune personne » tenue par Mistress Micawber. Mais je n'ai jamais découvert qu'aucune jeune personne eût reçu aucune instruction dans la maison, ni qu'aucune jeune personne y fût jamais venue ou en eût jamais eu l'envie. Je n'ai pas appris non plus qu'on n'eût jamais fait les moindres préparatifs pour recevoir celle qui aurait pu se présenter. Les seuls visiteurs que j'ai jamais vus ou dont j'ai entendu parler étaient des créanciers. Ceux-là venaient à toute heure du jour et quelques-uns d'entre eux étaient féroces. Il y avait un bottier avec une figure crasseuse, qui s'introduisait dans le corridor dès 7h du matin et qui criait du bas de l'escalier « Ah non, vous n'êtes pas sorti encore! Payez-nous, dites donc! Ne vous cachez pas! Voyez-vous, c'est une lâcheté! Ce n'est pas moi qui voudrais faire une lâcheté pareille! Payez-nous, dites donc! Payez-nous, tout de suite! Allons !» Puis, ne recevant pas de réponse à ses insultes, sa colère s'échauffait et il lançait les mots de « filou » et de « voleur », ce qui restait également sans effet. Quand il voyait cela, il allait jusqu'à traverser la rue et à pousser des cris sous les fenêtres du second étage où il savait bien que M. Micawber couchait. En pareille occasion, M. Micawber était plongé dans le chagrin et le désespoir. Il alla même un jour, à ce que j'appris par un cri de sa femme, jusqu'à faire le simulacre de se frapper avec un rasoir. Mais une demi-heure après, il cirait ses souliers avec le soin le plus minutieux et sortait en fredonnant quelques ariettes d'un air plus élégant que jamais. Mistress Micawber était douée de la même élasticité de caractère. Je l'ai vue se trouver mal à 3h, parce qu'on était venu toucher les impositions, et puis manger à 4h des côtelettes d'agneau panées avec un bon pot d'ale, le tout payé en mettant en gage 2 cuillères à thé. Un jour, je m'en souviens, on avait fait une saisie dans la maison, et en revenant par extraordinaire à 6h, je l'avais trouvée évanouie, couchée dans la cheminée, avec un des jumeaux dans ses bras naturellement, et ses cheveux à moitié arrachés, ce qui n'empêche pas que je ne l'ai jamais vue plus gaie que ce soir-là devant le feu de la cuisine, avec sa côtelette de veau, en me contant toutes sortes de belles choses de son papa et de sa maman et de la société qu'il recevait. Je passais tous mes loisirs avec cette famille. Je me procurais mon déjeuner qui se composait d'un petit pain d'un sou et d'un sou de lait. J'avais un autre petit pain et un morceau de fromage qui m'attendait dans le buffet sur une planche consacrée à mon usage pour mon souper quand je rentrais. C'était une fière brèche dans mes 6 ou 8 shillings. Je passais la journée au magasin et mon salaire devait suffire aux besoins de toute la semaine. Du lundi matin au samedi soir, je ne recevais ni avis, ni conseil, ni encouragement, ni consolation, ni secours d'aucune sorte de qui que ce soit, aussi vrai que j'espère aller au ciel. J'étais si jeune, si inexpérimentée, si peu en état, et comment eût-il pu en être autrement, de veiller moi-même à mes affaires, qu'il m'arrivait souvent, en allant le matin au magasin, de ne pouvoir résister à la tentation d'acheter des gâteaux de la veille, vendus à moitié prix chez le restaurateur, et je dépensais ainsi l'argent de mon dîner. Ces jours-là, je me passais de dîner, ou bien j'achetais un petit pain ou un morceau de pudding. Je me rappelle 2 boutiques où on en vendait du pudding, et que je fréquentais alternativement suivant l'état de mes finances. L'une était située dans une petite cour derrière l'église de Saint-Martin, qui a disparu maintenant. Le pudding était fait avec des raisins de Corinthe de première qualité, mais il était cher. On en avait pour 2 sous une tranche qui n'aurait valu 15 sous si la pâte en avait été moins exquise. Il y avait dans le Strand, dans un endroit qu'on a reconstruit depuis, une autre boutique où l'on trouvait de bons puddings ordinaires. C'était un peu lourd, avec des raisins tout entiers, situés à de grandes distances les unes des autres, mais c'était nourrissant et tout chaud à l'heure de mon dîner, qui se composait souvent de cet unique plat. Quand je dînais d'une façon régulière, j'achetais un pain d'un sou et un cervelas, ou je prenais une assiette de bœuf de 8 sous chez un restaurateur, ou bien encore j'entrais dans un misérable petit café situé en face du magasin et qui portait l'enseigne du lion, avec quelque autre accessoire que j'ai oublié, et je me faisais servir du pain, du fromage et un verre de bière. Je me rappelle avoir emporté un matin du pain de la maison et l'avoir enveloppé dans un morceau de papier comme un livre pour le porter ensuite sous mon bras chez un restaurateur de Drury-Lane, célèbre pour le bœuf à la mode. Là, je demandais une petite assiette de cette nourriture recherchée. Je ne sais pas ce que le garçon pensa de cette petite créature qui arrivait ainsi toute seule, mais je le vois encore me regardant manger mon dîner et appelant l'autre garçon pour jouir du même spectacle. Et je sais bien que je lui donnais 1 sou pour lui et que j'aurais bien voulu qu'il le refusât. Nous avions une demi-heure, il me semble, pour prendre notre thé. Quand j'avais assez d'argent, je prenais une tasse de café et une petite tartine de pain et de beurre. Quand je n'avais rien, je contemplais une boutique de gibier dans Fleet Street. J'allais quelquefois jusqu'au marché de Covent Garden pour y regarder les ananas. J'aimais aussi aérer sous les arcades mystérieuses des Adelphi. Je me vois encore un soir, au sortir de là, transporté dans un petit cabaret tout à fait sur le bord de la rivière, avec un petit terrain devant, sur lequel des charbonniers étaient en train de danser. Je me demande ce qu'ils pensaient de moi. J'étais si jeune et si petit pour mon âge que parfois, quand j'entrais dans un café où je n'étais pas connu, pour demander un verre de bière ou de porter pour me désaltérer après dîner, on hésitait à me servir. Je me rappelle qu'un soir d'été, j'entrais dans un café et que je dis au maître « Qu'est-ce que vaut un verre de votre meilleur ale, tout ce que vous avez de meilleur ?» C'était une occasion extraordinaire, je ne sais plus laquelle, peut-être mon jour de naissance. « 5 sous, dit le maître de café, « c'est le prix de la véritable ale de première qualité. »« Eh bien, dis-je en tirant mon argent, « donnez-moi un verre de la véritable ale de première qualité. » Et qu'elle mousse bien, je vous prie. Il me regarda de la tête aux pieds par-dessus son comptoir en souriant, et au lieu de tirer la bière, il appela sa femme. Elle vint, son ouvrage à la main, et se mit aussi à m'examiner. Je vois encore le tableau que nous figurions alors. Le maître de café, en manche de chemise, s'appuyant contre le comptoir, sa femme se penchant pour mieux voir, et moi, un peu confus, les regardant de l'autre côté. Ils me firent beaucoup de questions sur mon nom, mon âge, ma manière de vivre, ce que je faisais et comment j'étais arrivée là. À quoi je suis obligée de dire que, pour ne compromettre personne, je fis des réponses assez peu véridiques. On me servit un verre d'ale qui n'était pas de première qualité, je le soupçonne, mais la maîtresse du café se pencha sur le comptoir et me rendit mon argent, en m'embrassant d'un air de pitié et d'admiration. Je n'exagère pas, même involontairement, l'exiguïté de mes ressources ni les difficultés de ma vie. Je sais que si M. Quignon me donnait par hasard un shilling, je l'employais à payer mon dîner. Je sais que je travaillais du matin au soir, dans le costume le plus mesquin, avec des hommes et des enfants de la classe inférieure. Je sais que j'errais dans les rues, mal nourrie et mal vêtue. Je sais que sans la miséricorde de Dieu, l'abandon dans lequel on me laissa aurait pu me conduire à devenir un voleur ou un vagabond. Avec tout cela, j'étais pourtant sur un certain pied chez Murdstone et Grunby. Non seulement M. Quignon faisait, pour me traiter avec plus d'égard que tous mes camarades, tout ce qu'on pouvait attendre d'un indifférent, très occupé d'ailleurs, et qui avait affaire à une créature si abandonnée. Mais comme je n'avais jamais dit à personne le secret de ma situation et que je n'en témoignais pas le moindre regret, mon amour-propre en souffrait moins. Personne ne savait mes peines, quelles cruelles qu'elles fussent. Je me tenais sur la réserve et je faisais mon ouvrage. J'avais compris dès le commencement que le seul moyen d'échapper aux moqueries et aux mépris des autres, c'était de faire ma besogne aussi bien qu'eux. Je devins bientôt aussi habile et aussi actif, pour le moins, que mes compagnons. Quoique je vécusse avec eux dans les rapports les plus familiers, ma conduite et mes manières différaient assez des leurs pour les tenir à distance. On m'appelait en général le petit monsieur. Un homme qui se nommait Grégory et qui était contremaître des emballeurs, et un autre nommé Pipe, qui était charretier et qui portait une veste rouge, m'appelait parfois David. Mais c'était dans des occasions de grande confiance, quand j'avais essayé de les dérider en leur racontant, sans me déranger de mon travail, quelque histoire tirée de mes anciennes lectures qui s'effaçait peu à peu de mon souvenir. Fécule de pommes de terre se révolta un jour de la distinction qu'on m'accordait, mais Mick Walker le fit bientôt rentrer dans l'ordre. Je n'avais aucune espérance d'être arrachée à cette horrible existence, et j'avais renoncé à y penser. Je suis pourtant profondément convaincue que je n'en avais pas pris mon parti un seul jour et que je me sentais toujours profondément malheureux, Mais je supportais mes chagrins en silence et je ne révélais jamais la vérité dans mes nombreuses lettres à Peggotty, moitié par honte et moitié par affection pour elle. Les embarras de M. Micawber ajoutaient à mes tourments d'esprit. Dans l'abandon où j'étais, je m'étais attachée à eux et je roulais dans ma tête tout le long du chemin les calculs de Mistress Micawber sur leurs chances et leurs ressources. Je me sentais accablée par les dettes de M. Micawber. Le samedi soir, jour de grande fête pour moi, d'abord parce que j'étais au moment d'avoir 6 ou 7 shillings dans ma poche et de pouvoir regarder les boutiques en imaginant tout ce que je pouvais acheter avec cette somme, ensuite parce que je rentrais plus tôt à la maison. Mistress Micawber me faisait en général les confidences les plus déchirantes qu'elle renouvelait souvent le dimanche matin pendant que je déjeunais lentement en avalant le thé ou le café que j'avais acheté la veille au soir et que je versais dans un vieux pot à confiture. Il n'était pas rare que M. Micawber fondît en larmes au commencement de ses conversations du samedi soir pour finir ensuite par chanter une romance sentimentale. Je l'ai vu rentrer pour souper en sanglotant et en déclarant qu'il ne lui restait plus qu'à aller en prison, puis se coucher en calculant ce que coûterait un balcon pour les fenêtres du premier étage, dans le cas où il lui arriverait une bonne chance, suivant son expression favorite. Mistress Micawber était douée de la même facilité d'humeur. Une égalité étrange dans notre amitié, née, je suppose, de notre situation respective, s'établit entre cette famille et moi, malgré l'immense différence de nos âges respectifs. Mais je ne consentis jamais à accepter aucune invitation à manger ou à boire à leurs frais, sachant qu'ils avaient bien du mal à satisfaire le boucher et le boulanger et qu'ils avaient à peine le nécessaire, tant que Mistress Micawber ne m'eût pas admis à sa confiance la plus entière. Un soir, elle finit par là. « Monsieur Copperfield, dit-elle, je ne veux pas vous traiter en étranger et je n'hésite pas à vous dire que la crise approche pour les affaires de Monsieur Micawber. » J'éprouvais un vrai chagrin en apprenant cette nouvelle et je regardais les yeux rouges de Mistress Micawber avec la plus profonde sympathie. À l'exception d'un morceau de fromage de Hollande, « ressources insuffisantes pour les besoins de ma jeune famille, » dit Mistress Micawber. « Il n'y a pas une miette de nourriture dans le garde-manger. » J'ai pris l'habitude de parler de garde-manger quand je demeurais chez papa et maman, et j'emploie cette expression sans y penser. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien à manger dans la maison. « Grand Dieu !» dis-je avec une vive émotion. J'avais 2 ou 3 shillings dans ma poche, de l'argent de ma semaine, ce qui me fait supposer que cette conversation devait avoir lieu un mardi soir. Je tirai aussitôt mon argent en priant Mistress Micawber de tout mon cœur de vouloir bien accepter ce petit prêt. Elle m'embrassa et me fit remettre ma fortune dans ma poche en me disant qu'elle ne pouvait y consentir. « Non, mon cher Monsieur Copperfield, une telle idée bien loin de ma pensée. Mais vous êtes plein d'une discrétion au-dessus de votre âge et vous pourriez me rendre un service que j'accepterai avec reconnaissance. » Je priais Mistress Micawber de me dire comment je pouvais lui être utile. « J'ai mis moi-même l'argenterie en gage, » dit Mistress Micawber. « 6 cuillères à thé, 2 pelles à sel et 1 pince à sucre. Mais les jumeaux me gênent beaucoup pour y aller et ces courses-là me sont très pénibles. » Quand je me rappelle le temps où j'étais avec papa et maman. Il y a encore quelques petites choses dont nous pourrions disposer. Les idées de M. Micawber ne lui permettent jamais d'agir dans cette affaire. Et Cliquette, c'était le nom de la servante, ayant un esprit vulgaire, prendrait peut-être des libertés pénibles à supporter si on lui témoignait une si grande confiance. M. Copperfield, si je pouvais vous prier... Je comprenais enfin Mistress Micawber et je me mis entièrement à sa disposition. Je commençais dès le soir même à déménager les objets les plus faciles à transporter et j'accomplissais presque tous les matins une expédition de cette nature avant d'aller chez Murdstone et Grimby. Monsieur Micawber avait quelques livres sur un petit bureau qu'il appelait la bibliothèque. On commença par là. Je les portais l'un après l'autre chez un étalagiste sur la route de la cité, dont une partie était habitée presque exclusivement dans ce temps-là par des bouquinistes et des marchands d'oiseaux, et je vendais les livres le plus cher que je pouvais. Mon acheteur vivait dans une petite maison derrière son échoppe. Il s'enivrait tous les soirs et sa femme le grondait tous les matins. Plus d'une fois, quand je me présentais de bonne heure, je l'ai trouvé dans un lit armoire, le front ensanglanté ou l'œil poché, suite de ses excès de la veille. Je supportais à croire qu'il était violent quand il avait bu, et il cherchait en vain de sa main tremblante à réunir dans les poches de ses habits jetés par terre l'argent qu'il me fallait, tandis que sa femme, ses souliers en pantoufles et un enfant sur les bras, lui reprochait tout le temps sa conduite. Quelquefois, il perdait son argent et me disait de revenir plus tard, mais sa femme avait toujours quelques pièces de monnaie qu'elle lui avait prises dans sa poche quand il était ivre, je suppose, et elle soldait le marché secrètement dans les shops quand nous étions descendus ensemble. On commençait à me bien connaître aussi dans la boutique du prêteur sur gage. Le premier commis qui fonctionnait derrière le comptoir me montrait beaucoup de considération et me faisait souvent décliner un substantif ou un adjectif latin, ou bien conjuguer un verbe pendant qu'il s'occupait de mon affaire. Dans ces occasions, Mistress Micawber préparait d'ordinaire un petit souper recherché, et je me rappelle bien le charme tout particulier de ces repas. Enfin, la crise arriva. Monsieur Micawber fut arrêté un jour de grand matin et emmené à la prison du banc du roi. Il me dit, en quittant la maison, que le dieu du jour s'était couché pour lui à jamais, et je croyais réellement que son cœur était brisé, le mien aussi. J'appris pourtant plus tard qu'il avait joué aux quilles très gaiement dans l'après-midi. Le premier dimanche après son emprisonnement, je devais aller le voir et dîner avec lui. Je devais demander mon chemin à tel endroit, et avant d'arriver là, je devais rencontrer tel autre endroit, et un peu avant, je verrais une cour que je devais traverser, puis aller tout droit jusqu'à ce que je trouvasse un geôlier. Je fis tout ce qui m'était indiqué, et quand j'aperçus enfin le geôlier, pauvre enfant que j'étais, je me rappelais que lorsque Roderick Random était en prison pour dette, il y avait vu un homme qui n'avait pour tout vêtement qu'un vieux morceau de tapis, et le cœur me battit si fort d'inquiétude que je ne voyais plus le geôlier. Monsieur Micawber m'attendait près de la porte, et une fois arrivé dans sa chambre, qui était située à l'avant-dernier étage de la maison, il se mit à pleurer. Il me conjura solennellement de me souvenir de sa destinée et de ne jamais oublier que si un homme, avec 20 livres sterling de rente, dépensait 19 livres, 19 shillings et 6 pence, il pouvait être heureux. Mais que s'il dépensait 21 livres sterling, il ne pouvait pas manquer de tomber dans la misère. Après quoi, il m'emprunta un shilling pour acheter du porteur, me donna un ordre écrit de sa main à Mistress Micawber de me rendre cette somme, puis remit son mouchoir dans sa poche et reprit sa gaieté. Nous étions assis devant un petit feu. Deux briques placées en travers dans la vieille grille empêchaient qu'on ne brûlât trop de charbon. Quand un autre débiteur qui partageait la chambre de Monsieur Micawber entra, portant le morceau de mouton qui devait composer notre repas à frais communs. Alors on m'envoya dans une chambre située à l'étage supérieur, chez le capitaine Hopkins, avec les compliments de Monsieur Micawber, pour lui dire que j'étais son jeune ami et demander si le capitaine Hopkins voulait bien me prêter un couteau et une fourchette. Le capitaine Hopkins me prêta le couteau et la fourchette en me chargeant de faire ses compliments à Monsieur Micawber. Je vis dans sa petite chambre une dame très sale et deux jeunes filles pâles avec des cheveux en désordre. Je ne pus m'empêcher de faire en moi-même la réflexion qu'il valait mieux emprunter au capitaine Hopkins sa fourchette et son couteau que son peigne. Le capitaine était réduit à l'état le plus déplorable. Il portait un vieux par-dessus sans par-dessous et des favoris énormes. Le matelas était roulé dans un coin et je devinais, Dieu sait comment, que les jeunes filles mal peignées étaient bien les enfants du capitaine Hopkins, mais que la dame malpropre n'était pas sa femme. Je ne quittai pas le seuil de la porte, je n'y fis qu'une station de 2 minutes au plus, mais je redescendis aussi sûr de tout ce que je viens de dire que je l'étais d'avoir un couteau et une fourchette à la main. Il y avait dans ce dîner de bohémiens quelque chose qui n'était pas désagréable après tout. Je rendis la fourchette et le couteau à leur légitime possesseur et je retournai à la maison pour rendre compte de ma visite à Mistress Micawber. Elle s'évanouit d'abord en me voyant, après quoi elle fit 2 verres de grog pour nous consoler pendant que je lui racontais ma journée. Je ne sais comment on en vint à vendre les meubles pour soutenir la famille. Je ne sais qui se chargea de cette opération. En tout cas, je ne m'en mêlai pas. Tout fut vendu et emporté dans une charrette, à l'exception des lits, de quelques chaises et de la table de cuisine. Nous campions avec ces meubles dans les 2 pièces du rez-de-chaussée, au milieu de cette maison dépouillée, et nous y vivions la nuit et le jour, Mistress Micawber, les enfants, l'orpheline et moi. Je ne sais pas combien de temps cela dura. Il me semble que ce fut long. Enfin, Mistress Micawber prit le parti d'aller s'établir dans la prison où Monsieur Micawber avait une chambre particulière. Je fus chargée de porter la clé de la maison propriétaire qui fut enchantée de rentrer en possession de son appartement et on envoya tous les lits à la prison, à l'exception du mien. On loua pour moi une petite chambre dans les environs avec une mansarde pour l'orpheline à ma grande satisfaction. Nous avions pris, les Micawber et moi, l'habitude de vivre ensemble à travers tous nos embarras et nous aurions eu beaucoup de peine à nous séparer. Ma chambre était un peu mansardée et elle donnait sur un grand chantier. Je me crus en paradis quand j'en pris possession en réfléchissant que la crise des affaires de M. Micawber était enfin terminée. Je travaillais toujours chez Marston et Grimby. Je me livrais toujours à la même occupation matérielle avec les mêmes compagnons, et j'éprouvais toujours le même sentiment d'une dégradation non méritée. Mais je n'avais, heureusement pour moi, fait aucune connaissance. Je ne parlais à aucun des enfants que je voyais tous les jours, en allant au magasin, en revenant, ou en errant dans les rues à l'heure des repas. Je menais la même vie triste et solitaire, mais mon chagrin restait toujours enfermé en moi-même. Le seul changement dont j'eus conscience, c'est que mes habits devenaient plus râpés tous les jours et que j'étais en grande partie délivrée de mes soucis sur le compte de monsieur et de mistress Micawber qui vivaient dans la prison infiniment plus à l'aise que cela ne leur était arrivé depuis longtemps et qui avaient été secourus dans leur détresse par des parents ou des amis. Je déjeunais avec eux d'après un arrangement dont j'ai oublié les détails. J'ai oublié aussi à quelle heure les grilles de la prison s'ouvraient pour me permettre d'entrer. Je sais seulement que je me levais souvent à 6 heures et qu'en attendant l'ouverture des portes, j'allais m'asseoir sur l'un des bancs du vieux pont de Londres, d'où je m'amusais à regarder les passants ou à contempler par-dessus le parapet le soleil qui se réfléchissait dans l'eau et qui éclairait les flammes dorées en haut du monument. L'orpheline venait me retrouver là parfois, pour écouter des histoires de ma composition sur la tour de Londres. Tout ce que j'en puis dire, c'est que j'espère que je croyais moi-même ce que je racontais. Le soir, je retournais à la prison et je me promenais dans la boue avec M. Micawber où je jouais aux cartes avec Mistress Micawber, écoutant ses récits sur papa et maman. J'ignore si M. Murdstone savait comment je vivais alors. Je n'en ai jamais parlé chez Murdstone et Grimby. Les affaires de M. Micawber étaient toujours, malgré la trêve, très embarrassées par le fait d'un certain acte dont j'entendais toujours parler et que je suppose maintenant avoir été quelque arrangement antérieur avec ses créanciers, quoique je compris si peu alors de quoi il s'agissait que, si je ne me trompe, je confondais cet acte légal avec les parchemins infernaux, contrats passés avec le diable qui existaient, dit-on, jadis en Allemagne. Enfin, ce document parut s'être évanoui. Je ne sais comment. Au moins, avait-il cessé d'être une pierre d'achoppement, comme par le passé. Et Mistress Micawber m'apprit que sa famille avait décidé que M. Micawber ferait un petit appel pour être mis en liberté d'après la loi des débiteurs insolvables et qu'il pourrait être libre au bout de 6 semaines. « Et alors, dit M. Micawber qui était présent, je ne fais aucun doute que je pourrais, s'il plaît à Dieu, commencer à me tirer d'affaire et à vivre d'une manière toute différente. Si, si, en un mot, je puis rencontrer une bonne chance. » Pour se mettre en mesure de profiter de l'avenir, je me rappelle que M. Micawber, dans ce temps-là, composait une pétition à la Chambre des communes pour demander qu'on apportât des changements à la loi qui réglait les emprisonnements pour dette. Je recueille ici ce souvenir parce que cela me fait voir comment j'accommodais les histoires de mes anciens livres à l'histoire de ma vie présente, prenant à droite et à gauche mes personnages parmi les hommes et les femmes que je rencontrais dans les rues. Plusieurs traits principaux du caractère que je tracerai involontairement, je suppose, en écrivant ma vie, se formaient dès lors dans mon âme. Il y avait un club dans la prison, et M. Micawber, en sa qualité d'homme bien élevé, y était en grande autorité. M. Micawber avait développé devant le club l'idée de sa pétition, et elle avait été fortement appuyée. En conséquence, M. Micawber, qui était doué d'un excellent cœur, et d'une activité infatigable quand il ne s'agissait pas de ses propres affaires, trop heureux de s'occuper d'une entreprise qui ne pouvait lui être d'aucune utilité, se mit à l'œuvre, composa la pétition, la copia sur une immense feuille de papier qu'il étendit sur une table, puis convoqua le club tout entier et tous les habitants de la prison, si cela leur convenait, à venir apposer leur signature à ce document dans sa chambre. Quand j'entendis annoncer l'approche de cette cérémonie, je fus saisi d'un tel désir de les voir tous entrer les uns après les autres, quoique je les connusse déjà presque tous, que j'obtins un congé d'une heure chez Murston et Grimby, puis je m'établis dans un coin pour assister à ce spectacle. Les principaux membres du club, tous ceux qui avaient pu entrer dans la petite chambre sans la remplir absolument, étaient devant la table avec M. Micawber. Mon vieil ami, le capitaine Hopkins, qui s'était lavé la figure en l'honneur de cette occasion solennelle, s'était installé à côté de la pétition pour en donner lecture à ceux qui n'en connaissaient pas le contenu. La porte s'ouvrit enfin et le commun peuple commença à entrer, les autres attendant à la porte pendant que l'un d'entre eux apposait sa signature à la pétition pour sortir ensuite. Le capitaine Hopkins demandait à chaque personne qui se présentait « L'avez-vous lu ? » ?»« Non. » »« Avez-vous envie de l'entendre lire ?» Si l'infortuné donnait le moindre signe d'assentiment, le capitaine Hopkins lui lisait le tout sans sauter un mot de la voix la plus sonore. Le capitaine l'aurait lu 20 000 fois de suite si 20 000 personnes avaient voulu l'écouter l'une après l'autre. Je me rappelle l'emphase avec laquelle il prononçait des phrases comme celle-ci. Les représentants du peuple, assemblés en parlement, les auteurs de la pétition représentent humblement à l'honorable chambre les malheureux sujets de sa gracieuse majesté. Il semblait que ces mots fussent dans sa bouche un breuvage délicieux, et M. Micawber, pendant ce temps-là, contemplait avec un air de vanité satisfaite les barreaux des fenêtres d'en face. Pendant que je faisais mon trajet journalier de la prison à Blackfriars, en errant à l'heure des repas dans des rues obscures dont les pavés portent peut-être encore les traces de mes pas d'enfant, je me demande si j'oubliais quelqu'un de ces personnages qui me revenaient sans cesse à l'esprit, formant une longue procession au son de la voix du capitaine Hopkins. Quand mes pensées retournent à cette lente agonie de ma jeunesse, je m'étonne de voir les romans que j'inventais alors pour ces gens-là flotter encore comme un brouillard fantastique sur des faits réels toujours présents à ma mémoire. Mais quand je passe par ce chemin, si souvent marqué de mes pas, je ne m'étonne pas de voir marcher devant moi un enfant innocent d'un esprit romanesque qui crée un monde imaginaire de son étrange vie et de la misère dont il fait l'expérience. Je le plains seulement.